Donc, je suis très surpris d'être parmi vous parce que franchement, si c'était marqué sur des tablettes quelque part, je ne le savais pas. Je suis quand même très heureux d'être là. Et je voudrais vous parler de Marcel. Marcel, c'est pas dans la chanson de Jean-Louis Aubert. Marcel est Lillois. Et c'est un homme qui a beaucoup de ressources. Il se lance dans les affaires. C'est lui qui est chargé d'implanter des hypermarchés. Vous voyez que c'est quelqu'un qui est donc responsable. Et les années passent. Il change, il se met à vendre des caravanes, il change de région et tout marche bien. Dans toutes ses affaires, tout va bien. C'est un homme qui a le cœur pour Dieu. Il vient en aide aux prêtres, hein, en particulier. Et la vie passe. Et il est en retraite. Et là, il retrouve un Nouveau Testament que lui avait donné son oncle, Lillois lui aussi, qui était ancien dans une église, qui faisait aussi partie des Gédéons, et il lui a donné le petit Nouveau Testament bleu, qui est resté au fond d'un tiroir, donc, pendant des années, des dizaines d'années. Et un beau jour, Marcel se plonge dans ce Nouveau Testament. Et il le lit. Il le lit vraiment avec soif. En particulier les psaumes. Il aime beaucoup les psaumes. Et il les apprend même par cœur pour certains. En particulier pour ceux qui connaissent les psaumes. Il a appris le psaume 119. Alors si quelqu'un veut bien nous dire ce cas de particulier, le psaume 119, c'est le plus long de la Bible, effectivement. Et donc, il est en retraite et il en profite pour faire des balades à vélo. Il est descendu dans le sud et là, c'est l'occasion. Parfois, il s'arrête, il fait un petit somme et il prend son Nouveau Testament, il le lit. Et un jour, donc, il revient de sa balade à vélo et il met la main dans la poche et il n'a plus son Nouveau Testament. Il l'a perdu. Et il en est vraiment très triste. Pour lui, c'est vraiment un manque. Il est vraiment attristé de ne plus avoir ce Nouveau Testament. Et là où il se trouve, bah, c'est pas une grande ville. Et donc, il voudrait en trouver un pareil, mais il n'en a pas l'occasion. Il déménage encore et il se retrouve dans la ville d'hier. Et là, bon, un samedi, il va au marché. Et sur le marché, il voit un stand biblique. Un stand biblique, et bien sûr, il s'arrête et il demande s'il peut avoir le même Nouveau Testament que celui qu'il avait. La conversation s'engage, et en parlant, bien, les personnes qui tiennent le stand lui disent ben, « Vous devriez venir demain au culte. Il y a des chants, il y a la prédication. » Se dit pourquoi pas. Lui qui a toujours aimé Dieu, lui qui a essayé de le servir comme il pouvait, le dimanche matin, il est assis dans la salle et là, vous avez entendu pleurer et là, il pleure. Il pleure et il ne sait pas pourquoi, mais il pleure. Pendant les chants, il pleure. Pendant la prédication, il pleure. Après le culte, le pasteur lui dit, tiens, ce serait bien, est-ce qu'on peut se rencontrer? Bon. Et donc, il rencontre le pasteur. Et tout le temps qu'il est avec le pasteur, il pleure. Il ne sait pas pourquoi. Est-ce que vous savez pourquoi? Il a pleuré. Il a vécu toute une vie, des dizaines d'années, sans vraiment rencontrer Dieu. Et ce jour-là, vraiment la parole de Dieu l'a saisi. Vraiment la parole de Dieu l'a touché. Vraiment, ce jour-là, le Seigneur est rentré en lui. Le salut est rentré en lui. Cet homme, qui a maintenant, je pense, 78 ans, je l'ai rencontré il y a 2-3 ans. Le pasteur m'en avait parlé. Et après, je l'ai rencontré, lui-même a expliqué ce qu'il avait vécu. Il a dit, maintenant, je dois rattraper le temps perdu. Et on a parlé donc ensemble, et je lui dis, ben oui, pour aller de l'avant, il y a aussi moyen d'aller plus loin avec le Seigneur, de vraiment recevoir le Seigneur dans son cœur, recevoir son Saint-Esprit. Et le signe, c'est le parler en langue. Et il a recherché le parler en langue. Et c'était à Noël de l'année précédente. Donc, je l'appelle pour lui souhaiter un joyeux Noël. Il me dit, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Cet homme cherche à rattraper les années qui étaient perdues. Amen. Certains vont dire, ah oui, c'était un vieux. Il est vieux, toujours dynamique, toujours en pleine forme, toujours rempli du Seigneur. C'est l'occasion, donc, quand on est jeune aussi, de rencontrer le Seigneur, de marcher avec lui, de rattraper le temps. Pas celui qui est encore perdu, mais vraiment de gagner ce temps pour le Seigneur. Je vais vous raconter ce que j'ai vécu cette semaine. Bon, ce n'est pas une grande expérience, c'est plutôt une expérience négative. Quelqu'un sonne à ma porte, ça devrait être... Oh ben c'était jeudi. Quelqu'un sonne à ma porte, dit tiens, j'entends personne. Et un gars qui est là et qui me dit, je passe, est-ce que vous avez des arbres à couper? Ben, je dis, tiens, oui, justement, j'ai un boulot là maintenant qui commence à devenir trop grand. Gêne mon voisin. Il a une piscine, il n'a plus de jardin maintenant, puisqu'il a une piscine, mais il a une piscine. Et alors, vous savez, les semences de bouleau, ça s'éparpille partout, ça lui bouge son filtre, etc. On s'entend bien quand même, mais il ne s'entend pas avec mon boulot. Alors, de temps en temps, il faut le faire tailler. Donc, je lui dis, voilà, hop, vous pouvez y aller. Il me donne son prix. Bon, ben, je dis, ça va. Il travaille. Et pendant 2-3 fois, pendant qu'il est à l'arbre, je l'appelle. J'ai dit, mais vous ramassez les branches, là. Il ne me répond jamais. 2-3 heures plus tard, il a terminé. Il dit, ben voilà, c'est fini. Et j'ai dit, attendez, là, il y a les branches. Je ne veux pas rester avec ça. Ah non, 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 moi j'ai fini mon travail, moi je ne peux pas les emmener, et moi je ne peux pas non plus les ramasser. Je ne sais pas ici, à Lille ou chez vous, mais maintenant on n'a plus d'encombrants qui passent, etc. Hein, donc, il n'est pas question. Donc, il a fallu batailler. Ça a été chaud. Je dois vous confesser que si lui s'est énervé, moi aussi. Et alors, il me dit, c'est parce que vous ne voulez pas me payer. Et si, je veux bien vous payer, mais je vais vous payer. Si vous faites ça, là, je ne vous paye pas. On a discuté un moment. Après, il dit, si je débarrasse, vous me payez? Bien sûr. Alors à la fin, il a débarrassé quand même. Il m'avait déjà dit, mais ça me reviendra plus cher que ce que je vais gagner si je dois aller aux encombrants. Ce qui n'est pas vrai du tout, parce que je l'avais bien payé au départ. Et bon, il le fait quand même, il a eu la réussite parce qu'il y a des voisins qui ont été intéressés de prendre les branchages et tout et tout. Et à la fin, et pour vous prouver, ben voilà, je vous paye. Ah, vous allez me payer ? Ben, il dit, bien sûr, ça a été convenu. Maintenant, pour vous montrer que je suis de bonne foi, je vais encore vous donner un supplément. Ben, il était content. Il était content et je vais même vous faire un petit cadeau. Même un grand cadeau. J'avais préparé un petit Nouveau Testament et je lui ai donné. Je m'étais posé la question, après comme ça, l'ambiance, est-ce que ça va être bien perçu ? Est-ce qu'au contraire ? Bon, je le fais, je vais le faire quand même. Je lui donne. Il prend le Nouveau Testament et il me dit, ça, ça vaut plus que tout le reste. Alors, je ne sais pas qui est cet homme, parce qu'il était pressé de partir. Mais il m'a dit, ça, ça vaut plus que tout. C'est mieux que tout. Je ne pense pas que c'était un chrétien. La manière dont il a réagi, dont il essayait d'être roublard. Mais cet homme a reçu la parole de Dieu. Amen. Ce matin, on a lu donc, il a été question du psaume 126. Et là où les gens donc pleurent. Donc dans ce psaume 126, je vous propose de vous le lire, à moins que c'est possible de l'envoyer. Oui, non? Ah bon, on va attendre alors que ça vienne. Donc ce psaume 126. Quand l'Éternel a ramené les captifs de Sion, nous avons cru rêver. Alors nous ne cessions de rire et de pousser des cris de joie. Alors on se disait chez les autres nations, oui, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Oui, l'Éternel a fait de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Viens changer notre sort, ô Éternel, comme tu fais couler des cours d'eau au désert. Qui sème dans les larmes moissonne avec des cris de joie. Qui s'en va en pleurant pour porter sa semence revient rempli de joie sous le poids de ses gerbes. Amen. En effet, il est bon de pleurer parfois, hein, ou même sur le plan psychologique, eh ben, il est bon de savoir ouvrir les vannes et d'ouvrir son cœur devant Dieu également. Celui qui sait s'ouvrir à Dieu, Dieu peut aussi remplir son cœur parce qu'il a le cœur ouvert. Tandis que quelqu'un qui est blindé, eh bien, ce cœur fermé, Dieu ne peut pas le toucher. Et ça me rappelle ce psaume-là. Justement, ce matin, je lisais dans Esdras. Le début du livre de Esdras. Alors, Esdras, son histoire, cette histoire, se passe 500 à 600 ans avant Jésus-Christ. Les Juifs avaient été déportés à Babylone. C'était des moments de pleurs, des moments de tristesse. Ils étaient au bord du fleuve et ils pleuraient. Ils pleuraient le temps passé. Ils pleuraient la gloire passée de Dieu. Ils pleuraient justement eux qui étaient pleins de certitude dans leur religion. Les voilà captifs, les voilà emmenés à des centaines de kilomètres, loin de chez eux. Mais bientôt, Babylone tombe. Babylone est prise par les Perses et leur chef, leur roi, leur dieu, peut-on même dire à cette époque, c'est Cyrus. Et Dieu incline le cœur de Cyrus. Nous allons lire ça ensemble. Cyrus, Esdras, au chapitre 1er. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplît la parole de l'Éternel, prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse. Donc la traduction diffère un peu. Voici ce que déclare Cyrus, empereur de Perse. L'Éternel, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre. Il m'a chargé de lui construire un temple à Jérusalem en Juda. Quels sont ceux d'entre vous qui... Oui, ça ne m'aide pas. Alors, on va faire autrement. Je lis et vous suivez. Ah. Il a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu qui séjourne, des restes du peuple de l'Éternel, des gens du lieu leur donneront l'argent, l'or, les effets, le bétail, des offrandes volontaires pour la maison du Dieu qui est à Jérusalem. Bon, on arrête là la lecture. Et ce qui s'est passé, donc, si le thème de ce matin c'est pleurer, on en a entendu, n'est-ce pas ? Ses pleurs, on a entendu Marcel qui pleurait, mais lui, il ne savait pas pourquoi, ni de quoi, ce n'était pas de tristesse, ce n'était pas de chagrin, c'est parce qu'il s'ouvrait à Dieu. Ici, il y a encore des pleurs, ces Juifs qui sont déportés, très loin du temple, parce qu'à cette époque-là, n'est-ce pas, et pendant très longtemps, vous voyez les cathédrales, comment elles sont bâties, quelle merveilleuse construction. C'était le lieu de la présence de Dieu encore. Il fallait s'approcher du ciel. Alors, on faisait monter les clochers, les flèches le plus haut possible. Alors, à cette époque-là, bien sûr, le temple, c'était le lieu où le Dieu résidait. Et ils sont loin du temple, qui d'ailleurs a été démoli. Ils sont loin de cette ville de Jérusalem, de Sion, où Dieu a sa présence pour les Juifs. Et la délivrance vient. Ils vont pouvoir retourner à Jérusalem. Et là, parmi tout le peuple, il y a une petite quarantaine de mille qui vont retourner, qui vont voir et qui ont à cœur de revenir, de faire ce long voyage. Dangereux, pénible, de retourner au milieu des ruines, ce n'est pas pour aller se réjouir dans un temple, mais c'est pour travailler à remonter, à reconstruire. Voilà ce que ces hommes font. Il y a des prêtres, mais il y a des hommes, des princes israélites, en tout, et il y a aussi des domestiques, des servantes, des serviteurs, en tout presque 40 000 qui vont retourner. Tous ne sont pas retournés. Tous les Juifs qui étaient à Babylone ne sont pas retournés. Beaucoup avaient fait leur trou, s'étaient installés, avaient pris leurs habitudes. Certains s'étaient bien enrichis. Mais une petite partie a eu à cœur de retourner, de suivre l'œuvre de Dieu. Il y a à peu près un mois, je disais à Waterloo, je me sens à l'étroit. Je me sens à l'étroit parce que nous avons besoin d'un renouveau. Nous avons besoin de retrouver le Saint-Esprit. Nous avons besoin de retrouver cette joie que Marcel a eue. Cette joie qui a été la vôtre quand vous avez donné votre cœur à Jésus. Cette joie que, je ne sais pas s'il y a des gens de Waterloo qui ont connu Waterloo ici, je ne pense pas. Mais pour vous raconter mon histoire un peu, je suis chrétien depuis très longtemps, depuis une cinquantaine d'années. Que par mes parents, j'ai connu l'Évangile, que mes parents ont connu l'Évangile, et on est resté dans une église. Et à un moment, il n'y avait plus la joie de Dieu. Et nous sommes arrivés à Waterloo. Et à Waterloo, il y avait très peu de monde. Et l'Église vivait un moment très critique. Et Antoine et Christiane vivaient un moment très critique. Mais on avait soif. On avait envie. On voulait retrouver vraiment l'Esprit de Dieu, la joie de Dieu. On voulait revivre. Parce qu'on se sentait mourir. On devait revivre. Sinon, c'était la mort, peut-être pas physique, mais la mort spirituelle. À un moment, je me suis dit, je ne peux plus rester là. On célèbre plus d'enterrements que de baptêmes. Si je reste là, je vais mourir aussi. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à Waterloo. Et comme je vous disais, il y avait une soif. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler de cette époque-là. Mais quand on est arrivé à Waterloo, c'était il y a 21 ans. L'église où on était s'est vidée et on est arrivé à Waterloo. Et le Seigneur a fait des grandes choses. Et au culte le matin, on savait qu'on allait au culte. On n'arrivait pas en retard parce qu'il n'y avait plus de place. Il fallait arriver à temps. Et on y allait avec joie, vraiment. Et à ce moment, pendant tout le culte, c'était des moments vraiment bénis du Seigneur. Sa parole qui était là, sa présence, le Saint-Esprit. Et le temps passait, on ne s'en rendait pas compte. Il était midi. Le culte n'était qu'à moitié. Il était 1 heure, on ne s'en rendait pas compte non plus. Il était 1h30, alors là, c'est Antoine qui était la chemise dégoulinante. On s'arrête. Alors, on peut dire que revenir sur les souvenirs, ce n'est pas bon, mais aussi, il faut savoir se souvenir du passé. Les Juifs se souvenaient du temps où ils étaient à Jérusalem, où ils pouvaient célébrer l'Éternel. Et pas tous, mais certains soupiraient. Néhémie, par exemple, Esdras, d'autres aussi, se souvenaient de ce temps-là. Et au moment venu, au moment que Dieu avait annoncé et où Dieu a décidé que ça se produirait, eh bien, ils sont revenus. Les souvenirs, ce n'est pas bon pour rester dans le passé. Les souvenirs, ce n'est pas bon pour rester en arrière, pour faire de la mélancolie, pour faire de la déprime. Mais les souvenirs sont bons pour se dire, je veux retrouver, pas le temps passé, je veux retrouver, pas vraiment comme avant, parce que les choses ne reviennent pas comme avant, mais tout ce qui était avant. Retrouver toute la joie qui était avant, toute la puissance du Seigneur qui était avant au milieu de nous. Oui, mais pour cela, il ne faut pas faire comme ces Juifs. Pour comme la plupart qui s'étaient installés, qui avaient retrouvé leur vie, qui s'étaient enrichis, qui étaient peut-être devenus des notables au milieu des Babyloniens. Alors ça, c'est une vieille histoire de 2500 ans. Mais notre histoire à nous, on est heureux d'avoir entendu le Seigneur. On est heureux d'avoir donné notre cœur au Seigneur. On est dans la joie. C'est merveilleux. On est transporté, transformé. On se sent complètement différent. Mais c'est la force des choses. Un peu à la fois, on s'installe, on s'assied, on sait sur quelle chaise on viendra s'asseoir le dimanche, ou à peu près, sauf changement, sauf si la place est prise, sauf s'il y a trop de monde. Mais à part ça, on a nos préférences. Peut-être au fond de la salle, pour certains. Près du chauffage, pour d'autres. On s'installe. Et à ce moment-là, on ne se rend pas compte de que cette joie s'en va un peu à la fois, que l'esprit s'éloigne un peu à la fois. Mais à un moment, il faut se réveiller. À un moment, si on a pleuré, eh bien, il faut demander au Seigneur la bénédiction. Il faut demander au Seigneur cette nouvelle joie. Que cette joie revienne. Et quand j'avais parlé comme ça à Waterloo, j'avais pas mis de titre. Non, d'habitude, il y a un mot qui déclenche, qui résume. Et là, pas. Et figurez-vous qu'au début du culte, Virginie faisait la louange et elle nous a fait chanter « Que ta gloire revienne, que ta gloire, Seigneur, revienne sur ton Église. » Et j'ai dit « C'est ça le titre. » Je ne savais pas, mais le Seigneur a pourvu. Voilà ce que le Seigneur voulait qu'on entende ce dimanche-là, à ce culte-là. Que la gloire du Seigneur revienne. Et moi-même, ça avait été très dur de préparer. Très dur. Jusqu'au moment où j'étais dit, Seigneur, ça doit être ça, mais je voudrais avoir une confirmation. Et quand je suis entré dans cette salle et qu'on s'est mis à chanter, Seigneur, que ta gloire revienne, que ta gloire revienne dans l'Église, j'ai dit, c'est le Seigneur qui m'a conduit à ce que j'ai préparé là, à dire, recherchons le Seigneur ensemble. Ce n'est pas la faute de ceci, de cela. Ce n'est pas la faute de celui-ci, de celui qui est sur l'estrade, ou de celui qui est assis. Ça, c'est encore du passé. Ce qu'il faut, c'est que tous ensemble, chacun aspire à retrouver la gloire du Seigneur. Que la gloire du Seigneur revienne dans l'Église. Ce n'est pas en restant dans le passé ou dans l'accusation, mais que chacun vraiment sente dans son cœur ce besoin, se sentir à l'étroit, en disant non, on ne peut plus continuer à vivre comme ça, parce que si on se laisse vivre, endormir, mourir tout doucement, on finira par mourir spirituellement complètement. Il faut qu'on en arrive à dire chacun, Seigneur, que ta gloire revienne. Je suis trop à l'étroit. J'ai besoin de retrouver ton esprit. J'ai besoin de retrouver ta présence. J'ai besoin que ta parole se manifeste parmi nous. J'ai besoin que ta grâce, ta bénédiction se manifeste parmi nous. Amen. Que le Seigneur soit béni. Que sa grâce soit sur chacun d'entre nous. Et que nous puissions être chacun assoiffés. Mais avant d'être assoiffés, il faut se rendre compte qu'on a soif. Il faut savoir se rendre compte qu'on a la bouche sèche, comme je l'ai maintenant, je m'en excuse. On doit assoiffer, bien sûr, sur le plan spirituel, en disant, Seigneur, nous voulons de plus grandes choses. Nous voulons que ta gloire revienne dans l'Église. Vous voulez le dire? Que ta gloire revienne dans l'Église. Que ta gloire, Seigneur, maintenant, revienne dans l'Église. On en a besoin, Seigneur. Ce monde en a besoin. Je ne sais pas si vous avez fait comme à Waterloo, le dimanche de l'Église persécutée. À Waterloo, ça a été une révélation pour certains. En se disant, voilà des gens qui n'ont rien, qui sont emprisonnés, qui souffrent, et ils proclament la gloire de Dieu à travers leurs souffrances. Il y a quelques jours, j'ai reçu un message. Et il y a quelques jours au Nigeria, là, il y a des extrémistes musulmans. Il y a déjà eu beaucoup de morts parmi les chrétiens. Et là, devant une église, une voiture a explosé à la fin du culte. Alors, tous ceux qui étaient déjà sortis du culte, sont retournés vers l'église. Et à ce moment-là, un bus a explosé pour tuer encore plus de monde. La situation de ces gens, eh bien, ils sont chrétiens. On parle de la libération de la Syrie. Est-ce qu'on vous parle des milliers de personnes, de chrétiens qui ont dû fuir? On vous parle du printemps arabe. Combien en Tunisie ont dû s'enfuir? Et pas en Tunisie seulement, mais en Libye, en Égypte, parce que ces chrétiens sont persécutés. Au Soudan aussi. Et peut-être pas qu'au Soudan, n'est-ce pas Albert? Et il n'y a pas que là. En Amérique du Sud, il y a aussi des chrétiens qui sont persécutés, pas par le communisme, pas par l'islam, mais par la tradition catholique. Là aussi, en Colombie, au Mexique, dans ces pays-là, au Chili aussi, des gens sont persécutés. Et je ne vais pas continuer dans toutes les anciennes républiques de l'Union soviétique, dans tout ce que tous ces pays qui se terminent par « en », que ce soit le Pakistan, l'Afghanistan, le Turkménistan, hein, le Kazakhstan, et j'en oublie encore. Voilà. Et on va plus loin, en Malaisie, en Indonésie, en Corée, au Vietnam. Combien sont persécutés? Mais ils proclament la gloire de Dieu. Ils proclament la gloire de Dieu. Leur cœur est brûlant pour Dieu. S'ils ne l'étaient pas, il y a déjà longtemps qu'ils se seraient arrêtés. Qu'ils auraient renoncé. Mais, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Oui, c'est pour. On n'est pas vraiment réprimé. On a le droit quand même. Hein. Et justement, ce droit que nous, on l'a pas complètement. Je sais très bien. On confond entre la en France, c'est entre athéisme et laïcité. Voilà. Oui, je sais. On n'a pas la liberté que l'on voudrait. C'est sûr. Bien. Mais on a quand même une liberté individuelle, une liberté de conscience, et cette liberté nous endort, n'est-ce pas? Alors, vous étiez d'accord pour dire tout à l'heure que ta gloire revienne. Que ta gloire revienne dans l'Église. Vous êtes encore d'accord? Oui, vous avez encore le temps? Je vois que Fred regarde sa montre, le temps passe plus vite que je ne pensais. Et on va se lever et on va s'approcher. On va vraiment faire groupe, on va faire corps, bien un ensemble, pas des individualités. Alors je me suis mal fait comprendre. Approchez-vous, que l'on fasse un ensemble.